Cosmo La Malicia.
En 1990 visitamos los territorios de Huanchopolo, Valencia, esa población mítica llamada Flores de María.
Cosmo La Malicia, adorada.
Visitamos los territorios de Huanchopolo, Valencia, esa población mítica llamada Flores de María, donde tuvo lugar la famosa tragedia de Alicia Adorada. Algunos amigos de Huanchopolo, Valencia, su hermana además, María, nos contaron detalles de lo que fue esa situación cuando Huanchopolo, Valencia dejó abandonada a su Alicia Adorada, Alicia Castillo, para irse de huelga con unos amigos. Luego, al regresar, encuentra que ella ha muerto. Compone esa canción, que es una elegía, que es una manifestación de su dolor interior, Alicia Adorada.
Muy pocas personas se aventuran a visitar Flores de María, el pueblecito de donde era oriundo Huanchopolo, Valencia, y donde se desarrolló la historia de Alicia Adorada. Para llegar allí hay que hacer un recorrido en jeep a través de interminables trochas en mal estado y atravesar puentes rudimentarios y barriales. Eran los mismos caminos que recorría Huanchopolo, Valencia, a caballo y con su acordeón al hombro, animando parrandas de pueblo en pueblo. De Fundación a Flores de María hay 2 horas de camino a través de los potreros de la colosal finca de don Andrés Gamarra, cuya propiedad alcanza las 35.000 hectáreas, hoy repartidas entre sus hijos. Pero las dificultades no son solo de índole topográfico. Cuando llevábamos 1 hora de recorrido, fuimos interceptados por guerrilleros del Ejército Popular de Liberación, quienes aprovecharon la presencia de los periodistas y camarógrafos de Mundo Costeño para hablar sobre el plan de paz que están negociando con el gobierno. Luego de una prolongada charla donde los guerrilleros se mostraron partidarios al diálogo, seguimos el recorrido y llegamos a Flores de María, encontrándonos con un pueblo sin policías ni fuerza pública, cuyo inspector es un burócrata que vive a 2 horas de camino y jamás se le ve la cara. Ya estábamos en la tierra de Huanchopolo, Valencia. Huanchopolo a su pueblo en los famosos discursos de sus parrandas. Pero hoy día el panorama no es tan romántico como el que él evocaba. Las consignas del Ejército de Liberación Nacional se ven por todas partes. En realidad son muy pocas las flores que quedan en Flores de María, población que recibió ese nombre porque sus fundadores la encontraron llena de flores. Las nuevas generaciones han ido olvidándose poco a poco del legendario compositor que dio a conocer el nombre de ese pueblito en toda la nación.
Nena, ¿quién es Juancho Polo Valencia?
Yo no lo conozco.
¿Pero sabes quién es? ¿Lo has oído mentar?
No, yo no sé.
Allá en Flores de María, junto a la quebrada, quedó la casa cerrada donde ella vivía.
En el lugar donde vivieron Juancho Polo Valencia y su Alicia adorada, ya no existe la casa que menciona esta canción, sino un estanque repleto de patos. A un lado, donde quedaba el patio, los pavos se mueven libremente buscando qué comer. Así como las generaciones se han ido olvidando del músico legendario, la maleza se ha apoderado del lugar. De la casa de Juancho Polo Valencia solo quedan tres estacas, que son testigos mudos de aquella historia que sacudió a Flores de María. La quebrada donde Alicia acostumbraba a bañarse presenta un panorama nostálgico y triste, como manteniendo vivo el recuerdo de aquella historia.
Se enamoró de ella y se la llevó. Estaba bonita la mujer.
Yo cargo un duende y me persigue.
Por aquella época, Juancho Polo Valencia era un ídolo en los pueblos de la región y viajaba con frecuencia, dejando a Alicia con sus padres en Flores de María. Sus ausencias eran hasta de 2 meses. Alicia quedó embarazada muy pronto y el embarazo la enfermó de gravedad.
Se hinchó las piernas. Mujeres que se hinchan, sería falla de sangre, estaba anemia. Entonces ella la vieron varios médicos. Doctor Herrera entonces vivía. Toño Pimienta, uno de Canoa. La vieron y decían que ella se moría. Como que la enfermedad no. A lo que alumbrara se moría, se le salía la sería que se le salió la sangre. Ella le cayó bradera. No la aguantó. Y como eso para allá, por más que sea, eso era cerrado. Se le veían mordiscos así, vea, y botaba sangre por los dientes cuando ella se murió. Y aclamaba a Juan, a los santos, ay, le pedía a los santos para que no se muriera.
¿Qué le decía a los santos exactamente? ¿Qué le pedía?
Le pedía que la salud. Y lo mismo llamaba a Juan, que nosotros que se lo escondíamos, no. Él no estaba ahí. Y a la voz de pobre uno. Y lejos, pues eso metió allá en 9 leguas de ahí de Pibeja y allá Flores. Esos caminos que se ponían tan malucos ahí de lo que era Garrapata, el consejo.
Cuando Alicia se enfermó, que ya él la dejó embarazada, él salió para Pibeja ahí. Fue a tocar una fiesta en Pibeja ahí. Él le alcanzó a saber que Alicia estaba enferma. Él le avisaron que Alicia estaba enferma, todavía no estaba muerta, pero cuando ya él regresó de Pibeja y papi ya se venía, venía uno aquí por Piñuela. Él regresó y cuando llegó a Piñuela le dijeron: Valencia, Alicia está enferma. que necesitaba medicina, que quizás no la encontraba viva. Entonces ya él se regresó con mi hija. Pero cuando vino ya...
Se regresó para viajar para buscar
la medicina, pero ya cuando regresó otra vez, ya él sabía que la mujer se había muerto. Ya entonces sí.
Cuando a él le avisan por primera vez que ella está enferma, ¿él se vino enseguida?
No, él regresó a buscarle los remedios.
Digo, cuando a él le avisan, cuando está en PB High, que a él le avisan que ella está enferma por primera vez, ¿él se vino enseguida para acá?
Sí, y cuando llegó a Piñuela ya le avisaron que ya no... Ya ella quizás no la encontraba viva. Y así fue, como la encontró viva.
¿Él llegó cuando ella ya la habían enterrado?
Sí.
¿Cuánto tiempo después?
Bueno, él llegó a los 3 días. A los 3 días después de muerte ella llegó él.
¿Usted recuerda cuando él llegó, cómo fue su llegada?
Sí, venía un tipo que venía loco, ya venía desmentizado, ya él no tuvo, llegó aquí cuando después que le llegó ahí no vio sino el velorio ahí en la casa.
Mi abuela que se llamaba Cruzita Gamarra y otra señora que se llamaba Dina Barragán. Él venía ya cuando le avisaron que se le había muerto la señora Alicia. Mi mamá, mi abuela y la señora esa que eran muy amigos de la familia de él, ¿no? Le dijeron, Guancho Polo, usted está sin vergüenza. Usted vive borracho y mire que tiene como tiene su señora y se le murió. Y yo le digo, vea, niña Cruz, no me regañe, señora Dina, no me regañe. Ustedes son mi amiga, mi amigo. Deme una botella de ron y verá lo que yo traigo.
Eran las 4 de la tarde y salió para el cementerio. Él compuso esa composición, fue en el cementerio. En el cementerio de Agumpus.
¿Usted recuerda, usted lo vio en el cementerio?
Por eso le digo, era a las 4 de la tarde.
¿Todo el mundo lo siguió al cementerio?
No, cuando ya oímos allá, él estaba tocando. Ya los compañeros de trago fuimos a... Oh, Valencia está tocando en el cementerio. Y uno se admiró de ver lo que había hecho a tocar, pues. Entonces salimos allá a ver para ver. Y era él. Que estaba tocando en el cementerio arriba de la pila de tierra. Estaba tocando.
Él todo el tiempo, él cantaba Alicia, pero con mucho sentimiento. Él lloraba. Lloraba, sentía mucho. Yo no sabía que él no sabía ni qué hacía. Él no, usted para tocarla era usted a rodar. Él no le gustaba cantarla, nunca.
Cosmorama, dormida.
Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de vieillard est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 h et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron. Et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « c'était pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. J'ai pris l'autobus à 2 h. Il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant chez Céleste, comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi et Céleste m'a dit « on n'a qu'une mère ». Quand je suis parti, ils m'ont accompagné à la porte. J'étais un peu étourdi parce qu'il a fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. Il a perdu son oncle il y a quelques mois. J'ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette hâte, cette course, c'est à cause de tout cela sans doute, ajouté au chaos, à l'odeur d'essence, à la réverbération de la route et du ciel, que je me suis assoupi. J'ai dormi pendant presque tout le trajet. Et quand je me suis réveillé, j'étais tassé contre un militaire qui m'a souri et qui m'a demandé si je venais de loin. J'ai dit oui pour n'avoir plus à parler. L'asile est à 2 km du village. J'ai fait le chemin à pied. J'ai voulu voir maman tout de suite. Mais le concierge m'a dit qu'il fallait...
Je fais tous les matins, je fais 1 heure de marche, 3 quarts d'heure, 1 heure, et puis le soir la même chose. Enfin ici, donc je fais toujours le même parcours. Je pars d'ici, il y a la côte qui monte pour aller au Super-U. Et puis après je passe devant le Super-U, je longe, mais je fais ça quand il n'y a pas de voiture, quand de 1 heure le matin. Je descends sur le port, et puis après je vais vers Plouguiel, la passerelle, enfin il y a des endroits bien aussi à... Ce qu'il y a, voilà, je suis une trouillarde, quoi. Je suis très peureuse, alors je ne vais pas non plus dans des endroits où il n'y a pas de monde, quoi. Moi, j'ai besoin de voir du monde. Je suis assez peureuse, quoi. M'a dit qu'il fallait... J'ai toujours été peureuse depuis que je suis petite. J'ai été peureuse, je regardais toujours sur le lit et tout. Et ça venait justement parce que on a été élevés à la grand-mère parce que mes parents travaillaient. Donc le soir, c'est la grand-mère qui nous endormait chez elle. Et à l'époque, on nous racontait des histoires sur l'encou et tout, des histoires sur la mort. Et puis,
L'asile est à 2 km du village. J'ai fait le chemin à pied. J'ai voulu voir maman tout de suite. Mais le concierge m'a dit qu'il fallait que je rencontre le directeur. Comme il était occupé, j'ai attendu un peu. Pendant tout ce temps, le concierge a parlé et ensuite j'ai vu le directeur. Il m'a reçu dans son bureau. C'est un petit vieux avec la Légion d'honneur. Il m'a regardé de ses yeux clairs. Puis il m'a serré la main qu'il a gardée si longtemps que je ne savais trop comment la retirer. Il a consulté un dossier, il m'a dit « Madame Meursault est entrée ici il y a 3 ans. Vous étiez son seul soutien. » J'ai cru qu'il me reprochait quelque chose et j'ai commencé à lui expliquer, mais il m'a interrompu. « Vous n'avez pas à vous justifier, mon cher enfant. J'ai lu le dossier de votre mère. Vous ne pouviez subvenir à ses besoins. Il lui fallait une garde. Vos salaires sont modestes et tout compte fait, elle était plus heureuse ici. » J'ai dit « Oui, monsieur le directeur. » Et il a ajouté « Vous savez, elle avait des amis, des gens de son âge. elle pouvait partager avec eux des intérêts qui sont d'un autre temps. Vous êtes jeune et elle devait s'ennuyer avec vous. C'était vrai. Quand elle était à la maison, maman passait son temps à...
C'est l'Afrique. La première fois que je suis arrivée en Afrique, ça fait donc 2 ans, et eh bien j'étais avec Pape, qui n'était pas encore marié ni rien. Et eh bien j'attendais, mais il y a une histoire de valise. Donc j'étais là, j'attendais dans un quartier là. J'attendais que Pape aille voir si les valises étaient là. J'ai une copine à Corinne. C'est Corinne. Corinne a beaucoup d'amis éparpillés dans le monde. Et donc, j'étais là, j'attendais, quoi. J'avais plein d'enfants, tout ça, dans le quartier. Et puis, au milieu de tout, il y en a un qui me dit « Mais tu n'es pas fatiguée? Tu veux pas t'asseoir ?»« Ah, si tu veux, hein. Attends, je vais te chercher une chaise. » Donc, il est parti chez lui pour une chaise. Et puis, je suis assise, là, dans une cour. Il m'a fait rentrer dans sa cour, là. Et puis, il me dit « Tu es française ?»« Oui. » »« Et tu viens vivre en Afrique ?» Oui, pour un moment, dis-moi. Mais j'espère qu'on va se voir. Tu as l'air d'une gentille dame. Je vais te donner mon bijou. Il venait de le finir. Il le finissait. Il me l'a mis et depuis, il ne m'a jamais quitté. Je prends mes douches, mes bains, machin, jamais. Je me suis fait énormément d'amis, quoi. Énormément d'amis. Là, j'ai une femme africaine qui est ici d'ailleurs. Elle a une petite fille, elle a appelée Janine. Il y a une petite Janine là-bas. Il y a beaucoup de prénoms français quand même au Sénégal. Il y a une petite Janine. Voilà.
Toujours à cause de l'habitude. C'est un peu pour cela que dans la dernière année, je n'y suis presque plus allé. Et aussi parce que cela me prenait mon dimanche, sans compter l'effort pour aller à l'autobus, prendre des tickets et faire 2 heures de route. Le directeur m'a encore parlé, mais je ne l'écoutais presque plus. Puis il m'a dit « Je suppose que vous voulez voir votre mère ». Je me suis levé sans rien dire, il m'a précédé vers la porte. Dans l'escalier, il m'a expliqué « Nous l'avons transportée dans notre petite morgue, pour ne pas impressionner les autres ». Chaque fois qu'un pensionnaire meurt, les autres sont nerveux pendant 2 ou 3 jours, et ça rend le service difficile. Nous avons traversé une cour où il y avait beaucoup de vieillards, bavardant par petits groupes. Ils se taisaient quand nous passions. Et derrière nous, les conversations reprenaient. On aurait dit un jacassement assourdi de perruches. À la porte d'un petit bâtiment, le directeur m'a quitté. « Je vous laisse, monsieur Meursault. » Je suis à votre disposition, dans mon bureau. En principe, l'enterrement est fixé à 10 heures du matin. Nous avons pensé que vous pourrez ainsi veiller la disparue. Un dernier mot. Votre mère a, paraît-il, exprimé souvent...
Mais quand je suis revenue d'Afrique, je voulais retourner, quoi. Je ne peux plus rester vivre en France, moi. Non, mes enfants ne veulent pas, j'ai 72 ans. voilà, c'est tout, j'ai un fils qui a Roscoe, j'en ai eu 5, hein. Et donc j'en ai un, le petit dernier, qui a un scope, et il veut que sa mère aille habiter un scope sous la coupe de Sébastien. Alors comme il a des enfants, il dit oui, il va profiter des enfants et tout. Je dis oui, c'est sûr, ils sont tous là. Voilà, là, il y en a partout. Mais je dis, mais moi, je vais avoir 72 ans cette année, ma vie elle est derrière moi. Je dis, je vais encore aller une fois en Afrique. J'ai été là-bas, donc d'abord, j'ai été dans ce village, j'ai fait de l'alphabétisation aux femmes qui veulent absolument apprendre le français, apprendre à compter, parce que les enfants parlent français, et donc elles ne peuvent pas suivre les gosses à l'école. Ouais. Donc j'ai fait beaucoup d'alphabétisation. J'ai monté aussi dans une école de cuisine qui existait déjà, une école de crêpes. J'ai appris à peu près une soixantaine d'Africains, à peu près. Voilà, ça a été vraiment... Et puis bon, j'ai eu aussi mon passé dans la brousse. Il y avait un instituteur qui était malade, et donc il a fallu que je le remplace. Il y avait une jeune qui avait été nommée pour le remplacer, qui est... elle avait quand même 56 dans la même classe. Donc, moi, j'avais vraiment du temps, hein, et donc celui qui était dans la brousse, le directeur, me dit « Mais pourquoi tu ne vas pas à l'école, ils ont besoin hein. ?» Donc je vais, « Ah ben oui, ça tombe bien, donc vous aurez 28 élèves, mais ça s'est très mal passé. » Donc je suis restée quelques jours, et puis la prof, la jeune, elle, je ne sais pas, elle avait peut-être 25 ans, elle était atroce. Elle tapait ses gosses, les élèves à coups de cravache.
Oh là là.
Alors, un jour, alors bien sûr, moi, la française qui arrivait, elle me disait tout bas, mais c'était content. Alors bien sûr, elle me parlait, j'étais là, j'étais nouvelle et tout. Et donc, eh ben, ça a été un peu plus difficile. La voix, je la verrai toute ma vie, avec un petit sweat bleu, là, et. Vraiment, elle a eu peur, quoi. Puis alors tous les autres, et c'est pas un, c'est deux, comme ça, à chacun. Toute ma moitié, les 28 élèves ont eu des coups. Arrivé à mon niveau, je dis, c'est bon, ça va, moi j'ai fait ça, je m'en vais. J'ai vu le directeur, il était juste là en train de parler avec les profs. Et j'ai dit, ben je viens plus. Voilà, c'est le dernier jour où vous me voyez, je dis, ben, c'est moi les coups de cravache. Non. Et donc, ben voilà, lui il a dit, ah mais Janine, il ne faut pas partir. Ben non, Janine, ben oui, ben non, Janine, elle n'a rien à faire, je ne suis jamais retournée. Et donc, je disais, elle débute dans la vie et elle commence à donner des coups de cravache. Après, j'ai eu discuté, mais c'est courant. Coup de cravache à l'épaule, c'est très courant. Et même mon Jean m'a bien dit que lui, il a arrêté d'aller à l'école, comme pour beaucoup, parce qu'il avait peur des cravaches. J'ai vu, et puis c'est vrai que j'ai sympathisé avec plein de gens, et je me suis occupée de plein d'enfants, des abandonnés sur la plage. Et donc, et c'est pareil. Hein, et donc, ils étaient tout le temps avec moi. Les parents, voilà, à 8h, ils les lâchaient avec un petit quignon de pain. Là, et puis, hop, toute la journée, comme ça, jusqu'à 7h, 7h30, 8h, 12h d'affilée. Et donc, ils n'allaient pas à l'école. Mais je disais, pourquoi vous n'allez pas à l'école? Parce que maman n'a pas payé. Il faut payer pour aller à l'école, c'est pas cher, mais il faut payer quand même. Donc un jour, je leur ai dit, bon, bah, écoutez, vous allez aller à l'école, moi je vais vous donner ce qu'il faut. Quoi. Donc, je sympathise avec les parents et tout. Puis un jour, eh ben, le petit s'arrête pas, comme mon Jean, et il arrive en pleurs. Je dis, mais qu'est-ce que tu as là? Et il me disait rien, il était en sanglots et tout. Puis c'est ses frères qui m'ont dit, regarde son dos, il était rempli de coups de ceinture. C'est tout le dos, les coups de ceinture. Où il est ton père là? Hop, ils m'ont fait voir où il était parce qu'il était gardien. Mais voilà, tout passait avec moi. Parce que c'est vrai que tout le monde, voilà, m'aimait bien, mamie, et puis Janine. Et donc j'ai dit, je vais aller voir ton père. Et il était gardien, là, chez les Espagnols, là, qui étaient tous au bord de la piscine, enfin les grandes baraques, là, oui, c'est ça. Et donc, eh ben. Je dis, est-ce que je pourrais parler à vos gardiens? Alors, ils m'ont vu arriver avec trois petits noirs derrière moi, là, qui n'avaient pas le droit d'être là, parce qu'il ne fallait pas se faire le gros tour quand ils allaient voir la fête, ils n'avaient pas le droit de venir là où normalement c'était l'entrée. Je dis, moi je rentre à la grande porte, je ne vais pas escalader 50 mètres là, pour me casser la figure. Je dis, non, je rentre, et vous venez avec moi. Et donc, alors, ces femmes, quand elles m'ont vu arriver, là, me regardait, là. Je dis, oui, là, votre gardien, il est là, le gardien, je ne sais même pas comment il s'appelle, je dis, mais vous avez un gardien, je veux le voir. Ah ben, on ne sait pas, et puis voilà, je vois l'homme qui arrive, c'était le propriétaire. Ben oui, je dis, j'aimerais bien voir votre gardien, je vais lui parler, ça ne va pas être long, 3 minutes, et puis après, ben voilà, je repartirai. Et alors, ben, j'ai été voir, quand il m'a vu arriver, il se planquait derrière les arbres, il était là en train d'arroser, esclave. Et tout, comme tous les gardiens de maison, voilà, les blancs. Et donc, des fois, j'avais honte d'être blanche. Hein. Franchement, j'avais honte. Quand je vois comment encore les noirs sont maltraités avec les blancs, pas payés. Ils gagnent l'équivalent de 40, 50 euros par mois. Ils travaillent dès le matin de 7h jusqu'à 9h. Ils font tout. Bon, genre, c'est pareil. Hein. Ils exploitent complètement.